fois autrice, traductrice, scénariste. Et nous échangeons aujourd'hui avec vous autour d'un essai qui n'est pas le cœur de votre activité. Donc vous êtes vous-même fait une surprise à vous-même, et puis après j'arrêterai les jeux de mots sur la surprise. Et vous ouvrez ce livre avec une très très belle métaphore autour de la grenade. De la grenade et de ces 643 pépins qui sont, dites-vous, à la fois autant de surprises et autant d'éclats de temps. Est-ce que cette image de la grenade, c'est une image qui vous est venue au moment où vous êtes dit « je vais faire un livre sur la surprise », comment vous êtes-elle arrivée ?
Alors, c'est pas au moment où je me suis dit « je vais faire un livre sur la surprise », mais vraiment au moment de l'écriture. Parce que l'écriture, je pense qu'on le comprend ici, demeure pour moi aussi le lieu de la surprise. Et donc, lorsque j'ai commencé le livre, j'ai essayé de faire surgir l'importance de la surprise avant même de l'analyser. Et son importance pour moi pouvait se comprendre en décrivant comment elle m'était apparue. Pourquoi ce mot ? Parce que dans cette collection, voilà, on a l'embarras du choix. J'aurais pu choisir des mots qui, en apparence, sont beaucoup plus dignes de réflexion. Et la surprise m'est apparue. J'ai pas eu le sentiment de la choisir, mais d'être vraiment choisie par elle, si on peut dire. Et là, il y a vraiment eu cette image qui m'est apparue. Voilà. Alors, on est plus du côté, on va dire, de la poésie ou de la réflexion à ce moment-là. Et donc, une grenade dans un papier de soie. Et moi-même, cette image-là, j'ai eu envie de la déplier. Je me suis dit, mais une grenade, c'est à la fois ce fruit, un peu ma vie, parce que tous ces grains serrés, la façon dont ils sont reliés, séparés, je trouvais ça très beau. Et puis une grenade, c'est aussi une arme. Une grenade dégoupillée menace d'exploser. Et j'avais le sentiment, quand le mot m'est apparu, que l'intuition de son importance était si forte que j'avais presque peur que, comme toute surprise, la pensée autour du mot s'évanouisse très vite. Je ne pouvais pas écrire le livre en quelques secondes, il me fallait quand même des jours et des semaines et des mois. Et donc j'ai saisi d'abord cette image pour voir à quel moment j'allais dégoupiller la grenade.
La grenade des mots, parce que effectivement, vous le dites, on y reviendra. Alors, c'est souvent le cas quand on commence à réfléchir à un objet, c'est-à-dire qu'on prend un objet et on se rend compte qu'en fait, il est infiniment plus présent que ce qu'on imagine. Mais vous insistez aussi dès le début sur la question de la surprise comme lectrice, comme jeune lectrice, et sur justement la possibilité, la différence entre les écrivains qui savent rendre compte de la surprise, au nombre desquels vous citez Duras ou la Bible, et de ceux qui n'y parviennent pas. Et que finalement, la première découverte de la surprise, c'est justement la surprise en littérature.
Oui, alors je ne sais pas si c'est la toute première, on y reviendra peut-être, oui, on l'a forcément oubliée. La surprise, c'est un moment d'une intensité telle que je pense qu'on a légitimement envie et besoin de l'éprouver. Et selon moi, et je ne suis pas la seule, parce que je cite aussi Aristote qui parle de ce qui nous pousse vers l'apprentissage, et il parle de l'étonnement ou de l'émerveillement. Pour moi, sans aucun doute, les livres ont été le lieu de la surprise. Et le lieu où je désirais plus que tout être surprise. Et peut-être que l'une des premières surprises, c'est celle d'une voix. C'est-à-dire, on entend une voix lorsqu'on lit, alors que nul autre n'est dans la pièce a priori. Et cette voix va, à certains moments, vous clouer sur place, parce qu'il y a une phrase qui va exprimer ce que vous ressentiez sans pouvoir l'exprimer, et vous le découvrez. Vous découvrez quelque chose d'insoupçonné. Et donc, cette soif de lecture, pour moi, c'est la surprise. Alors après, je n'aime pas cataloguer les écrivains, parce que moi-même, je peux changer d'avis sur certains livres et certains. Et c'est aussi un des principes de la surprise, c'est de ne pas rester figé dans des certitudes. Mais je dirais que pour moi, un livre qui aura forcément une importance, c'est un livre dans lequel il va y avoir ce frémissement où peut-être, où je vais sentir que, sans pouvoir mettre forcément le doigt dessus, mais que l'auteur lui-même s'est laissé embarquer, qu'il n'a pas cherché à tout maîtriser, et quelque chose lui a échappé. Et ce quelque chose, c'est en général le cœur battant du livre.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est ça, c'est aussi votre expérience d'autrice. C'est-à-dire que se lancer dans un livre, c'est accepter la possibilité de la surprise. C'est-à-dire que on ne peut pas, enfin, on peut très bien écrire des livres dans un contrôle absolu, hein, j'imagine.
Bien sûr.
Mais
dans
votre démarche à vous, vous pensez que c'est vraiment fondamental qu'il y ait cet écart pour la surprise,
oui.
Avec néanmoins ce paradoxe que vous le soulignez, qui est qu'on ne peut pas la vouloir.
Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, je crois que c'est vraiment le moment de dire que la surprise a profondément à voir avec notre rapport au temps et avec le temps tel que nous le percevons. Donc, en général, un être, je pense que peut-être même, et ça me vient maintenant, que quand on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison, enfin, quand on parle voilà, d'un être doué de raison, c'est sans doute un être qui a intégré quelque chose d'une dimension un peu continue du temps. Je parle souvent des enfants, dans la petite enfance, alors que voilà, ces petits êtres de 3-4 ans sont déjà doués de parole. En général, leur perception du temps est quand même assez confuse. Très souvent, ils vous disent hier au lieu de dire la semaine dernière. Ils disent demain, ils ne peuvent pas dire dans un mois. Donc, la spatialisation du temps à cet âge est extrêmement réduite. Et je crois que, enfin, c'est une hypothèse, parce que l'âge de raison, c'est l'âge où on a une certaine intégration du temps et on perçoit. Sans avoir encore vécu suffisamment pour l'éprouver, mais on perçoit ce qu'est une heure, un mois, une année. On organise, on comprend l'organisation du temps. Or, la surprise, c'est par définition l'événement qui va surgir et qui va bouleverser cette vision qu'on a du temps à venir. Voilà, on avait prévu de partir en vacances et je sais pas, il y a un incendie qui se déclare et on ne partira pas. Et donc, en quelques secondes, l'organisation du temps est totalement modifiée. Et tout ça pour dire que je crois que ce rapport au temps qui est perturbé par la lecture, par la surprise, dans l'écriture, peut-être une des plus belles choses, c'est de rendre compte de ça, de cet équilibre instable dans lequel nous sommes entre le temps organisé et la désorganisation subite. Parce qu'autrement, un livre, s'il ne témoigne d'aucun mouvement, c'est un livre inanimé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut des péripéties, des actions. On n'est pas dans le livre d'aventure, même si l'aventure, je pense, intéresse les enfants pour cette raison-là. Et parce que dans l'enfance, on est capable d'atteindre la surprise lorsqu'elle est organisée un peu de cette manière, de manière aventureuse, avec des péripéties. Plus tard, ça pourra être un monologue de quelqu'un qui, je ne sais pas, ça pourrait être l'homme qui dort, de Pérec, et où, voilà, où en apparence, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais c'est la langue elle-même qui va être en mouvement et qui va nous mettre en mouvement. Et donc, pour moi, oui, l'écriture et l'art doit témoigner de ces mouvements.
Mais dans le cas de l'homme qui dort, ne serait-ce que l'ouverture, si vous êtes un lecteur de romans, on va dire, classiques, constitue une surprise, l'adresse à la deuxième personne,
bien
ce type
sûr,
de choses.
Enfin,
c'est
un
moment de très grande surprise littéraire.
Et oui, quand vous dites ça, d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de me dire, vous êtes saisi.
Absolument.
Et la surprise, c'est ce qui nous saisit au-delà de nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe.
Alors, vous avez évoqué effectivement la question du temps, qui est importante parce que vous faites une double étymologie. Enfin, vous êtes renseigné, vous avez travaillé sur les deux étymologies possibles de surprise au travers des deux langues qui sont les langues que vous pratiquez le plus souvent, c'est-à-dire le français d'un côté et l'hébreu de l'autre. Et ça vous a permis de comprendre qu'il y avait finalement deux pistes possibles dans l'intelligibilité de la surprise. Et quelles sont-elles?
Alors, il y en a autant que deux langues. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire, je pense, un livre entier d'étymologie du mot surprise dans toutes les langues. Et ça m'aurait certainement emmené dans une encyclopédie et un livre que j'aurais terminé dans 30 ans, je pense, à peu près. Je suis partie des deux langues qui sont les miennes. Le français qui est ma langue maternelle, l'hébreu qui est ma deuxième langue que je pratique, que je traduis. Ce qui a été très beau, c'est qu'en me penchant sur le français, donc évidemment, être surpris, c'est être pris au-delà de soi-même dans son être, donc le corps, l'esprit, ça m'a ramené à l'être. Et en hébreu, le mot surprise vient du mot soudain. Donc c'est vraiment cet ébranlement du temps, et être surpris, c'est en quelque sorte être soudainé. Mot qui n'existe pas en français, que j'aimerais bien introduire d'ailleurs, je suis soudainé, c'est être frappé par le soudain. Et là, quand j'ai vu, j'ai même pas osé le dire, mais quand j'ai vu que, en quelque sorte, j'avais affaire à... C'était l'être et le temps. Donc, je me suis sentie toute petite par rapport, on va dire, à cette équation ou cette relation entre deux termes. Mais ça m'a confortée dans l'idée que la surprise était absolument fondamentale dans nos vies. C'est, quand l'être est saisi par le temps, c'est à la fois le début de la vie, la fin de la vie et tous les moments de bascule importants. Après, et c'est vrai que ce livre-là est un peu un infini parce qu'il provoque des discussions, des réactions. Et le philosophe François Nudelman, à qui j'ai envoyé le livre et que je cite au début du livre, quand je parle de la dimension sonore de la surprise, m'a appris, mais voilà, le livre était déjà terminé, qu'en anglais, surprendre se dit aussi « overhear ». Bon, mon accent est déplorable, mais ça veut dire « outre-entendre ». Donc, entendre au-delà. Et j'ai trouvé ça merveilleux qu'il y ait aussi que la dimension sonore aille jusque-là. C'est-à-dire que la surprise, même si elle est silencieuse, elle provoque en nous une sorte un tressaillement ou un sursaut qui est sonore et qui nous fait entendre certainement quelque chose au-delà de ce qui vient de résonner.
Oui, elle nous fait comprendre aussi qu'il y a... Et c'est l'articulation que vous évoquiez, hein, entre l'être et le temps, en nous-mêmes, quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Et c'est ce que vous dites aussi sur la question de la métamorphose. Alors, dès qu'on dit métamorphose, et vous êtes là, évidemment, on pense Kafka, et vous montrez que la métamorphose de Kafka, c'est à la fois la surprise, on va dire, absolue, tout le monde connaît la scène, et en même temps, ça vient dire que toute surprise est une métamorphose.
Oui. Alors, aussi, hein, c'est vraiment une hypothèse, parce que j'ai écrit cet essai avec mes outils. Je n'avais pas du tout de prétention philosophique, puisque je ne suis pas philosophe. En revanche, je voulais réfléchir, je voulais être... je voulais arpenter ce terme avec mes outils. Et donc, mes outils, c'est parfois le cinéma, ce sont des scènes vues, ce sont évidemment des livres. Kafka m'accompagne beaucoup ces dernières années, et je suis loin d'être une spécialiste de Kafka, mais j'ai toujours le sentiment que dans ces livres, il y a une réponse à la question qui m'obsède. Comme j'ai le même sentiment avec John Kelevich. Et ça relève presque un peu de la magie, ou pour moi, ou du miracle. Mais je peux, à n'importe quel moment de la journée, alors que je suis perplexe, je me pose une question, je peux ouvrir au hasard un livre de Kafka ou de John Kelevich. Et quelque chose que je vais lire va se relier. Et là, avec bien sûr, la métamorphose, ça a été archi-disséqué. Mais j'ai pris ce moment où Gregor Samsa est métamorphosé et où il apparaît aux yeux des autres. Et les réactions autour sont celles de la surprise, physiquement, de manière sonore. Et donc, c'est dans le regard des autres qu'il va percevoir lui-même sa métamorphose. Et j'ai l'impression que la surprise... Les grandes surprises sont des métamorphoses parce que on a tous ce sentiment lorsqu'il se passe un événement grave, et la gravité peut être aussi bien positive que négative, que plus rien ne sera jamais comme avant, y compris nous-mêmes. Et donc c'est une métamorphose intérieure, invisible aux yeux des autres, et chez Kafka, pour le coup, elle est visible et elle est décrite comme on la voit. Et donc, je suis partie de là, et ça m'a amené aussi, puisque je voulais pas lâcher Kafka, à cette phrase incroyable qu'il a dans les conversations avec Gustave Janouch, où il dit, contrairement à ce que nous croyons, nous ne grandissons pas de bas en haut, parce que dans ce cas, ça voudrait dire que dans nos vies, on gagne à tout casser 1m40. 1m40, ça témoigne pas de l'expérience d'une vie. Il dit, nous grandissons de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est cette métamorphose perpétuelle qui, pour moi, est accompagnée par la surprise. C'est-à-dire, toute surprise de face à la connaissance. Et j'entends par connaissance pas uniquement les études, mais la connaissance qui est celle du monde qui nous entoure. Ça peut être une rencontre, ça peut être un événement qu'on va raconter. Ça va ajouter des couches comme ça qui vont métamorphoser quelque chose en nous.
Donc finalement, et vous y venez un peu après dans le livre, en restant sous l'exemple de la métamorphose de Kafka, la première des surprises, c'est forcément la naissance, puisque le moment où on passe d'un monde à un autre, où on devient autre chose que soi-même, et qu'en plus, on le fait sous le regard des autres, quasiment oui. Nécessairement, oui. C'est précisément, non pas un devenir scarabée ou scolopendre, peu importe, mais un devenir humain dans l'extériorité du monde.
Tout à fait, tout à fait. Et là, ça a été une des plus grandes surprises pour moi, et une des révélations, parce que la surprise a à voir avec la révélation. Sans être du tout dans une approche religieuse, parce que le mot révélation est très connoté, mais la surprise nous révèle quelque chose que nous ignorions jusqu'à présent, ou que nous pensions, que nous ne venions même pas à imaginer ou à envisager. C'est l'inenvisageable, l'inimaginable, l'inespéré parfois, qui se produit, et qui donc révèle quelque chose. Et le premier moment où l'être est frappé par le temps et où il est dans une rupture si grande que quelque chose le saisit au-delà de lui-même, c'est quand même la naissance. Et moi, je le confie dans le livre, la naissance, l'oubli de la naissance, l'amnésie de la naissance et des premières années, c'est vraiment quelque chose qui m'a tracassé, travaillé, révolté pendant toutes mes années d'enfance. Et au-delà même, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas se souvenir de quelque chose d'aussi important et selon moi d'aussi puissant. On imagine la puissance de la découverte du monde. On l'imagine. Je ne sais pas si on l'imagine, mais on se doute bien. Ou en tout cas, moi, je me posais ces questions je pense, la stupeur permanente dans laquelle on est quand on croise des visages, on entend des sons pour la première fois. Tout est premier, que ce soit de manière corporelle ou psychique. Et dans l'enfance, les deux sont totalement liés. Et donc, cette puissance-là, j'en avais en quelque sorte la nostalgie. Je n'arrivais pas à me défaire de cette révolte que je ressentais à l'idée qu'on ne se souvienne pas. Et je suis allée vers l'écriture pour ça, pour écrire et me souvenir. L'entreprise n'a pas marché. J'ai compris qu'on ne pouvait pas se souvenir de sa vie dans la totalité en l'écrivant. Et donc là, les choses se sont transformées. Je suis allée vers la fiction. Et tout ce que j'écris, je pense, se relie à ce qui fait qu'un être, à un moment donné, sent que quelque chose bascule. Où il le sent pas, il le vit, et ça reste pour moi l'écho de la première surprise qu'on oublie.
Oui, sachant que cet oubli, c'est ce que vous dites aussi au travers des textes de Winnicott que vous citez, c'est un oubli nécessaire, vraisemblablement.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne supporterait pas ce premier choc est tellement grand,
oui,
que c'est même au-delà de la question du sublime, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement fort qu'on ne pourrait pas vivre avec consciemment. Peut-être qu'on vit avec autrement.
Exactement. Alors ça, je l'ai découvert et j'ai beaucoup de... Je crois que j'exprime beaucoup de gratitude pour beaucoup d'auteurs et de livres dans la surprise, en lisant Revivre de Frédéric Worms. Dans un passage, j'ai trouvé ces mots de Winnicott qui expliquent très bien comment la conscience déjà n'a pas eu le temps de se former, et même s'il y a forcément quelque chose qui s'élabore dans le ventre maternel, le saisissement est évidemment trop grand à la naissance. Et l'intensité des perceptions est si forte, effectivement, qu'elle a besoin d'être absorbée. Donc ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. On imagine tous très bien, et on a lu, c'est une liste que c'est inscrit en nous. Sauf que ça ne l'est pas de manière consciente. Et c'est quand il a vraiment... je suis allée le lire directement à la source, quand il parle de la crainte de la folie primaire, c'est vraiment ce moment où tout est tellement nouveau et nous parvient dans une acuité si grande que l'affolement est permanent. Parce que oui, chaque seconde de vie est nouvelle, oui, chaque perception peut nous atteindre de plein fouet quand on est cet être qui découvre absolument tout de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, il y avait la question de la folie. Et alors, ça m'a un tout petit peu consolée parce que j'ai compris en effet que s'il y avait cette mémoire, elle serait même pas une mémoire ordonnée. On ne pourrait jamais sortir d'une sorte de réceptivité permanente. Et que, bien entendu, ça nous empêcherait d'atteindre ce que j'ai appelé tout à l'heure l'âge de raison, où on est capable d'organiser le temps et de dire, voilà, là, il y a une année scolaire, je vais apprendre telle chose, je vais passer tel examen, je commence la danse et je vais essayer de maîtriser les 5 premières positions. Donc ça ne nous permettrait pas de vivre d'évoluer, de grandir, d'assumer une vie responsable. En revanche, je pourrais dire qu'à quelques moments de ma vie où j'ai vécu des bouleversements intime ou parfois même collectif, mais que je vivais de manière intime, de manière très très forte, j'ai eu le sentiment que j'effleurais cet état et qui est à la fois un état de grande puissance et de grande vulnérabilité, parce que le moindre mot peut vous mettre les larmes aux yeux, mais le plus petit des mots, on vous dit merci. Et l'expression de la gratitude vous bouleverse. Et parce que vous avez le sentiment, dans ces moments-là, que vraiment le monde vous apparaît dans toutes ses couleurs, ses dimensions, sa profondeur. Et pour donner un exemple, ce sont des moments où je pense que la folie n'est pas loin, mais jamais au point. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça n'a jamais été quelque chose qui était inquiétant pour ma vie. Mais en revanche, cet état intérieur, je l'ai connu. Et je me souviens, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a quelques années déjà, au moment de l'invasion de l'Ukraine, qui a été vraiment et qui venait après les confinements successifs, donc dans un moment de grand bouleversement, et où moi-même j'avais vécu sur le plan intime des choses très fortes. Pendant quelques semaines, je me sentais si réceptive que j'ai lu Rimbaud, Le bateau ivre, et j'avais le sentiment de tout comprendre. Or, aujourd'hui, si je reprends le texte, je ne vous dirai absolument pas ça. Je n'arriverai pas à embrasser la folie qui est présente. Et à ce moment-là, je lisais le bateau ivre et chaque phrase était limpide pour moi. Et donc, ça m'a donné accès à quelque chose de très beau et très profond. Mais j'ai senti aussi que ce n'était pas un état qui permettait d'avancer comme un être adulte et responsable.
C'est intéressant parce que ce que vous dites, finalement, ça rejoint des expériences de ce qu'on appelle les fulgurés. Donc, les gens qui ont reçu la foudre, qui en ont survécu, et qui après, pendant un certain temps, sont une espèce de suractivité mentale liée à l'électricité, qui fait qu'ils ont une intelligibilité de tout.
Oui,
et
tout
puis,
à
ça
fait.
Et puis, ça finit par se reculer.
Mais oui.
Il y a une dimension un peu comme ça dans la description que vous faites de cette compréhension, tout d'un coup.
Oui, j'aime beaucoup ce parallèle, parce que là aussi, il y a eu un article dans Le Monde, mais que j'ai lu, alors que le livre était déjà terminé, là aussi. Et j'ai senti que ça pouvait entrer là. Effectivement, il y a des états, et on n'a absolument pas besoin, pour ma part, de substances particulières. Bon, en l'occurrence, là, c'est la foudre et c'est l'électricité. Mais il y a des états qui sont à la fois physiques et psychiques qui font entrevoir ce que peut être la capacité sensorielle, sensible et intellectuelle reliée. C'est vertigineux. Et ce sont pour moi, ce sont des moments précieux, même s'ils peuvent se secouer énormément.
Alors, pour rester sur la question de la naissance, ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est que, pour les raisons que vous venez d'évoquer très clairement, on s'en souvient sans s'en souvenir, et il vaut mieux qu'on ne se souvienne surtout pas de l'émotion absolue que c'est. En revanche, on nous la raconte. Et on nous la raconte sans arrêt, et nos parents, les entourages, etc. Et vous dites aussi à quel point cette dimension narrative, là aussi, dans l'articulation par rapport à votre travail d'écrivaine, c'est relié. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des choses qu'on n'a pas reçues, nous, dans l'émotion, mais qu'on nous a racontées, que c'est par cette narration affectueuse, qu'on peut aussi arriver à l'écriture.
Oui, et en vous écoutant, là aussi, parce que j'adore être stimulée par ce qui est dit, et j'y pense maintenant, En réalité, c'est peut-être de là aussi que vient notre besoin de récit. C'est-à-dire que forcément, le début de notre vie nous parvient par un récit et pas par le souvenir. Ce qui, pour moi, se rattache à ce besoin de récit plus vaste qu'on peut avoir du monde, du passé. Je ne sais pas comment on aborderait l'existence si on n'avait pas ces récits. Si on vivait dans un monde où personne n'était capable de nous raconter ce qui s'est passé avant. Là aussi, c'est une question qui peut être abordée par le biais de la science-fiction, par le biais peut-être aussi de la philosophie, et puis avoir toutes sortes d'hypothèses. Mais maintenant que je vous entends, je pense que, en effet, le premier récit nécessaire dont on a besoin, et d'ailleurs, voilà, les personnes qui ont été adoptées, par exemple, peuvent vraiment éprouver la nécessité de ce récit-là et ressentir un manque. Alors que, en réalité, ils sont sur le même plan que tous, puisque nul ne se souvient. Mais là où il y a de manque, c'est que personne n'est là pour faire le récit. Et voilà, bah c'est une découverte que j'aime bien. C'est certainement ce récit de notre première période oubliée qui ouvre quelque chose sur la nécessité d'avoir plein d'autres récits. Parce que peut-être qu'assez vite, finalement, on s'aperçoit que non seulement le monde est vaste, que nous sommes extrêmement nombreux, mais qu'il existe depuis très longtemps. Et ces données-là, que tout le monde prend comme si bon, elles étaient acquises une bonne fois pour toutes, moi, elles continuent de m'animer. J'ai besoin en permanence d'avoir des récits. Ça passe par le journalisme, ça passe par le cinéma, ça passe par les livres. J'ai besoin d'avoir des récits sur les expériences humaines qui ont lieu soit au même moment que celui qui est celui de ma présence sur Terre, soit qui ont précédé. Parce que je sais que je n'en saurai jamais assez.
Bien, là qui rejoint exactement la question de la surprise, c'est-à-dire que à quoi s'oppose précisément la figure que vous venez de décrire, celle du blasé. Oui. C'est-à-dire qu'autant on n'est jamais, soit on n'est jamais rassasié du récit, de la vie des autres, de ce qui leur arrive, soit on considère que monsieur, c'est bon, ça sera toujours comme ça, l'homme est méchant, etc. Et c'est très important parce qu'on y reviendra un peu après, mais à la fin du livre, vous évoquez un certain nombre de figures de la privative surprise, de ceux qu'on ne parvient pas à surprendre.
Oui.
Et la première, et dont on sent qu'elle vous exaspère au-delà de tout, c'est le blasé.
Oui, c'est plutôt la deuxième, mais parce que la première, justement, comme j'ai de la tendresse pour elle, peut-être qu'on ne la relie pas aux autres catégories. Parce que la première, ce sont les opposants pacifistes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc, ce sont les gens qui ont du mal avec la surprise. Mais alors, je le dis, ils disent, mais ils sont très touchants. Ils vous disent, oh, moi, j'aime pas trop les surprises. Et j'aime bien en faire, mais je n'aime pas en vivre. Et donc, comme j'ai de l'affection pour eux, on ne peut pas les relier aux quatre catégories qui sont, qui sont inquiétantes pour moi à plus d'un titre. Alors, comme vous avez dit qu'on y reviendrait après, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je dirais qu'en effet, j'ai le sentiment que la surprise, qui parfois vraiment est un peu dévalorisée par l'association directe qu'on en fait du cadeau, de l'anniversaire, de la fête, donc ça reste quelque chose qui en apparence ne semble pas lié à l'expérience humaine forte. Or, la surprise, au contraire, c'est donc ce qui va nous frapper aussi dans nos certitudes, par exemple. On a cru, mais tout simplement, je donnerai un exemple. Lorsque moi, je suis allée pour la première fois de ma vie à New York en décembre 2000. Et janvier 2001, donc j'ai passé là-bas. Voilà, c'était la première fois que j'allais à New York. Je suis allée retrouver une amie. Le 31 décembre, il y a eu une tempête de neige magnifique. Avec un mètre de neige tombé en une nuit. Je découvrais New York, ce sentiment de familiarité qu'on a avec la ville sans y être jamais allé, parce qu'on s'aperçoit que la moitié des films qu'on a vus nous montrent certains lieux de New York. Et je suis montée donc, en haut de l'Empire State Building, Donc là aussi, King Kong, je ne sais pas quoi, voilà. Et de là-haut, j'ai pris les tours jumelles en photo. J'ai de très belles photos des tours. Et on était donc en janvier 2001. Et je me suis dit, bon, la prochaine fois que je reviendrai, je ferai l'inverse. Je monterai sur les tours et je prendrai l'Empire. Et donc, j'avais cette projection d'une photo qui serait à venir lorsque je reviendrai à New York. 9 mois plus tard, les tours se sont effondrées. Alors, évidemment que la catastrophe n'était pas dans le fait que je ne puisse pas prendre la photo. Je suis retournée à New York plusieurs fois depuis. Mais je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai pris conscience qu'une projection dans le temps qui me semblait vraiment... que personne n'aurait pu remettre en question. C'est comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui « Je suis sur l'Arc de Triomphe, je prends la Tour Eiffel, la prochaine fois que je viendrai, je ferai l'inverse. » Peu de gens lui diraient « Ouh, méfie-toi, peut-être la prochaine fois, la Tour Eiffel ne sera pas là. » Il y a cet aspect immuable du bâti humain qui, tout à coup, n'existait plus, qui était fracassé, qui n'était plus que cendre et gravats. Et dans l'effroi et la sidération qui se sont emparés de nous tous, de tous ceux qui ont vu les tours s'effondrer le 11 septembre, chez moi, il y avait cette stupeur supplémentaire qui était de me dire, mais en fait, jamais je pourrais prendre l'Empire State Building à partir des Twins. Et donc, ça a renversé quelque chose sur les certitudes. Et j'avais 31 ans à l'époque. Et là aussi, j'y pense maintenant que je vous le dis. Peut-être que ça a été le début de cette période finalement bénéfique, je trouve, sur le plan intellectuel, où j'ai commencé à comprendre que les certitudes que j'avais tant eu besoin d'avoir depuis mon adolescence, depuis le moment où j'avais cessé de croire en Dieu, parce que je suis née dans une famille croyante et pratiquante. Et donc, moi, ma première lecture du monde, ça a été Dieu, la foi, le récit biblique, tout était bien ordonné. Il y a eu un moment vers l'âge de 12 ans où j'ai commencé à me dire, c'est peut-être pas si bien ordonné que ça, il y a quelques problèmes. Et donc, j'ai perdu la foi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu cesse d'avoir des grilles de lecture solides, rationnelles. L'histoire, la science, voilà. Moi, mes trois matières préférées à l'école, c'était l'histoire, la littérature, la biologie. Et c'était trois piliers qui, pour moi, pouvaient tout expliquer. Je m'intéressais beaucoup à la politique aussi, et j'avais des certitudes politiques très fortes. Et je réalise maintenant que le moment où certaines certitudes ont commencé à basculer, c'est ce moment-là du 11 septembre, où par ailleurs, c'est pas forcément pour confier des choses intimes, mais par ailleurs, j'avais une très très bonne amie qui a eu un diagnostic d'une maladie qui l'a emportée quelques années plus tard. Elle était plus jeune que moi, et donc là aussi, quelque chose d'une sorte de confiance. Pour moi, c'était mon amie. On riait souvent en se projetant à 80 ans comme deux vieilles dames en train de radoter ou pas. Et le fait d'avoir tout à coup sa mort annoncée, alors qu'elle avait 28 ans, ça s'est télescopé avec l'histoire du 11 septembre. Et là, j'ai compris pour la première fois que cet élan qu'on prend vers l'avenir peut à tout moment se fracasser. Et ensuite, il y a eu d'autres choses pour le meilleur qui m'ont fait comprendre aussi que peut-être la vie, à partir du moment où on a acquis certains outils, c'est peut-être justement de perdre certains savoirs et certaines certitudes et de continuer en permanence à interroger et à se laisser interroger par ce qui se passe. Et donc, c'est ça le vivant. C'est cette acceptation d'épouser les mouvements permanents qui nous dévient, qui nous déstabilisent, qui nous redonnent confiance, et pas comme les blasés, parce qu'on y reviendra aux blasés. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis contente aussi d'avoir écrit ce livre, c'est que je leur ai taillé un petit costard, comme on dit.
Non, mais allons-y, parce que je pense qu'avec la question du 11 septembre, on pourra aussi évoquer une autre figure de celui qui ne veut pas de surprise.
Oui.
Comme vous dites, il y a, donc à la fin, vous dressez un certain nombre de figures de gens qui refusent la surprise. certaines plutôt sympathiques qui préfèrent que la vie soit suffisamment bien organisée pour qu'ils ne se fassent pas surprendre à tout moment, mais aussi des figures beaucoup plus marquées négativement, le blasé que vous évoquiez, et aussi le complotiste, qui est, on va dire, la version pathologique terminale de celui qui pense que toute chose a une explication.
Exactement.
Et aucune surprise n'est possible, et même s'il y a une surprise, c'est louche.
Exactement. Alors, en fait, par rapport à la première catégorie, donc des opposants pacifistes qui souhaitent les choses ne bougent pas, je la relirai aussi à un autre passage du livre où j'évoque une amie ukrainienne qui n'était pas encore une amie, qui l'est devenue, mais qui dirigeait le département de littérature française à l'université de Tchernovitz, en Ukraine, qui m'a lancé une invitation à laquelle finalement je n'ai pas pu répondre parce qu'il y a eu la pandémie, puis la guerre. Et j'évoque ce moment où la guerre est annoncée, où l'invasion de l'Ukraine par la Russie apparaît comme une quasi-certitude. Mais là aussi, ça nous dit bien que tant que les choses ne sont pas produites, on ne sait pas. Et à ce moment-là, Alina, comme tout... alors, il est écrit Galina dans le livre, mais ça se prononce, voilà, H. Alina, comme tous les Ukrainiens, espère, et comme les opposants pacifistes, on va dire, espère qu'aucune mauvaise surprise n'arrivera et que finalement la vie va garder ses couleurs, si possible monotones, routinières. Parce que, encore une fois, moi je ne suis pas une radicalisée de la surprise, comme je le dis. Il n'est pas question d'éprouver une surprise à chaque seconde. Et finalement, la routine, qui peut angoisser certaines personnes, c'est aussi quelque chose d'extrêmement rassurant. Ça veut dire que quand on n'a pas envie que les choses bougent, ça veut dire qu'on est plutôt bien dans le lieu où on vit, dans la vie que l'on a, et qu'on ne veut surtout pas que ça s'arrête. Alors, c'est cette réflexion sur aussi ce désir de quiétude qui m'a amenée vers les opposants à la surprise. Et de là, je me suis dit, mais pour prouver l'importance de la surprise, il faut forcément que j'aille voir ce qui se passe quand elle n'advient pas, quand elle ne peut pas advenir, ou quand on la nie, quand on la refuse. Et donc, effectivement, la première des catégories négatives, c'est les blasés. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les blasés, et voire je me suis sentie à certains moments agressée par eux. Mais vraiment, et j'ai mis du temps à mettre le doigt sur cette question, parce qu'après tout, chacun a son rapport au monde, ce n'est pas un problème, et moi je ne cherche pas à imposer le mien. Mais le blasé, c'est celui qui refuse à l'autre la surprise. Et moi je trouve ça assez suspect. Je trouve que c'est quand même une forme d'arrogance, une forme de suffisance. Peut-être que ça vient aussi d'un désir de ne pas être perturbé, par une inquiétude. Donc là aussi, on a des certitudes. On sait tout, on a tout lu, on a tout compris. Et surtout, on a tout compris avant les autres. Et donc, le blasé, c'est quelqu'un qui va vous refuser vos émerveillements, vos étonnements, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'espace entre... la découverte et la réflexion. Comme si on ne pouvait pas avoir aussi un chemin singulier de découverte. Les gens qui considèrent qu'il faut absolument, à 40 ans, avoir lu tel livre, avoir vu tel film, et qui vous regardent d'un air méprisant quand vous dites « Ah ben non, moi j'ai toujours pas lu, j'ai à la recherche du temps perdu, et je ne sais pas si ça m'arrivera. » Alors moi, personnellement, j'ai lu 5 fois le début, je crois, avec le grand projet de tout lire. Et puis je m'arrête, mais c'est pas grave, je maintiens cette relation avec Proust, et peut-être qu'un jour j'aurai effectivement lu toute la recherche. Bref, le blasé va en quelque sorte nier... votre propre chemin de découverte, de compréhension du monde et d'apprentissage. Donc, je trouve ça très, très peu généreux. Après, concernant le complotiste, c'est aussi en répondant à une autre interview que j'ai réussi même à aller un peu plus loin dans la compréhension, parce que je le mets, et j'espère que les gens n'en seront pas choqués, je mets les croyants et les complotistes dans le même chapitre. Et bon, les croyants, c'est au sens large, mais... Effectivement, les complotistes, eux, ce sont une espèce, on va dire, humaine, qui me terrifie, qui m'angoisse. Et en écrivant ce passage, j'ai compris que le complotiste, comme certains croyants, pas tous évidemment, il y a mille façons de croire, a la certitude que tout est régi par une entité supérieure. Alors pour le croyant, ce sera a priori une entité bienveillante ou qu'il va considérer comme voulant son bien, selon la religion à laquelle il est rattaché, et pas forcément celui des autres, ce qui déjà est un problème. Mais c'est un dieu plutôt bénéfique. Il attend donc même s'il se passe des choses négatives, c'est dans le dessein de Dieu. Tout est entre ses mains, tout est écrit. Bon, ça, moi, c'est ce que j'ai remis en question à l'âge de 12 ou 13 ans. Et puis l'autre complotiste, lui, c'est absolument incroyable. Il va tout relier, tout événement, et les événements les plus surprenants, les plus radicaux, il va les relier à la volonté maléfique, pour le coup, d'une entité qui sera donc les puissants, les Illuminati, les Juifs, et qui est plutôt du côté du diable, en fait, si on réfléchit. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait face à face Dieu et le diable. Et qui va et qui donc, lorsque vous direz, oh là là, mais tu as vu ce qui se passe, ce virus-là qui arrive de Chine, qu'est-ce que c'est? Et on se pose à ce moment-là légitimement la question, est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça s'est échappé dans le laboratoire? Est-ce que le complotiste, lui, va avoir tout de suite la réponse. Et ce sera toujours un événement qui est au service d'un dessin sombre, par lequel nous sommes tous manipulés. Et je trouve ça extrêmement effrayant. Parce que, bien entendu, et il me semble que ce sont justement des personnes qui, intentionnellement ou pas, parce qu'il y a peut-être des gens très malhonnêtes et d'autres qui sont plutôt très inquiets. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui relaient des thèses complotistes. Certains sont si persuadés qu'on sent chez eux, effectivement, un verrouillage très angoissant du côté, j'allais dire, du diable, en quelque sorte. Et eux me donnent vraiment des palpitations. Physiquement, j'ai des palpitations. J'ai du mal à leur parler. D'autres sont des gens très inquiets, qui ont besoin de se raccrocher à une explication. Or, justement, et là, on revient à la surprise, oui, il se passe des choses dans le monde, on peut tous confirmer, qui vont parfois au-delà de l'entendement et qui nous laissent stupéfaits. À ce moment-là, pour moi, il faut prendre la mesure de la sidération, la mesure de cette surprise et aller vers ceux qui, par leur savoir, par leur connaissance, vont pas forcément nous donner la réponse, mais vont nous permettre d'avancer un petit peu et d'essayer de circonscrire la sidération.
Oui, ça dénote aussi un rapport à la rationalité. En tout cas, une représentation de la rationalité dans laquelle elle a toujours raison de tout. Il y a toujours une raison ultime aux choses.
Oui.
Alors que l'expérience, c'est ce que vous montrez aussi dans le livre, ne cesse de nous enseigner à quel point nous sommes sans cesse dépassés par la raison des choses. Et que c'est aussi une vision très biaisée ou presque un peu simpliste de la rationalité comme instrument d'explication.
Exactement, exactement. Et bien sûr que c'est ça qui est difficile. On est en équilibre très précaire entre la raison et le mystère, le visible et l'invisible. Et les deux surprises qui encadrent sans doute notre vie et dont on ne peut jamais prendre la mesure, c'est la naissance, mais c'est la mort aussi. La mort est sans doute notre dernière surprise. Et donc, entre ces pôles qui sont multiples et qui sont du côté du positif, enfin, entre le positif et le négatif, on va dire simplement, oui, il nous laisse pas de répit. Mais comme vous dites, c'est une facilité d'imaginer qu'on a des explications très simplistes à toutes les questions qui nous dépassent.
Alors que vous avez évoqué le début et la fin, et on peut espérer qu'en son milieu, et pas seulement qu'en son milieu, il y a aussi une surprise fondamentale qui articule là aussi la surprise existentielle et la question narrative, qui est l'amour.
Oui.
Puisque c'est à la fois le principal réservoir d'histoire des écrivains et des poètes.
Oui,
et en même temps,
oui.
Ça occupe pour l'instant de nous une partie significative de la vie.
Bien sûr.
Et là aussi, on ne peut pas rendre raison de cette chose-là. Et on peut considérer que c'est la surprise existentielle centrale
Tout à fait.
De la vie.
Oui, parce que l'amour, et il y a un autre chapitre qui est consacré aussi au coup de foudre d'amitié, parce que l'amitié tout de même l'amour, dans ce mystère, là aussi, de se sentir très fortement lié, à un inconnu ou une inconnue. C'est-à-dire que là, on est dans un bouleversement qui n'est pas envisageable quand on, voilà, justement dans les premières années de vie, sans doute, où en quelque sorte l'amour nous est imposé. Et quand je dis imposé, c'est on pourrait déplier pendant très longtemps, mais l'amour est en quelque sorte une donnée fondatrice qui nous enveloppe de gestes, de présence, de réponses à nos besoins vitaux, et donc qui se tisse hein, de seconde après seconde entre les parents ou les personnes chargées du soin et l'enfant. Et donc là, c'est une donnée absolue qui se relie, oui, tout autant aux besoins vitaux qu'à l'évolution psychique, à la présence, etc. La rencontre amoureuse, et dans une autre mesure aussi la rencontre amicale, c'est ce mystère d'être, de sentir le cours de la vie totalement relancé par cette rencontre. C'est-à-dire que voilà, vous êtes sur votre chemin, que vous l'attendiez ou pas, que vous le détiez ou pas, il y a tout à coup cet être qui surgit. Et parfois, ça, c'est le coup de foudre, mais même s'il n'y a pas de coup de foudre, ça peut venir quand même. Et il y a cette éprouvée de la nécessité absolue de continuer à avoir cet être. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il ne vous manquait pas vraiment, ou pas en tant que tel, puisqu'il n'existait pas dans votre vie. Et en quelques secondes, quelques minutes, quelques semaines, il devient indispensable. Et là aussi, on est dans une forme de folie. Enfin, voilà, pour le coup, bon nombre d'écrivains ont écrit sur la cristallisation et sur l'amour, l'état amoureux peut être une véritable folie. C'est-à-dire, c'est obsessionnel, c'est un état qui va illuminer absolument tout, c'est-à-dire qu'autour de vous, il peut faire gris, tout le monde est déprimé, tout le monde est préoccupé par le fait que le budget n'est pas encore voté, qu'on ne sait pas trop si la réforme des retraites va être gelée ou pas, etc. Et vous avez quelqu'un qui irradie totalement à contre-courant du reste du monde, qui n'est plus capable de voir certaines choses, qui n'est plus capable de les entendre, qui perd parfois même, qui semble perdre son intelligence parce qu'il ne peut que répéter en boucle « il ou elle est extraordinaire ». Donc il y a cette folie incroyable. Et c'est là que ça nous ramène aussi à la surprise, à l'état de surprise. Ça remet en jeu la perception, parfois le désespoir ou le renoncement qu'on a selon l'âge qu'on a, auquel on s'était fait. Et donc, c'est cette relance dans l'altérité la plus grande, un inconnu, une inconnue, qui, comme le dirait Richard, je cite souvent cette phrase de mémoire, dont l'existence soudain vous réjouit. Et ça, c'est aussi du mystère, c'est aussi un mystère. Y compris quand l'amour n'a pas, entre guillemets, que de bonnes raisons. Parce que l'amour peut ensuite se retourner, j'en parle, peut devenir prétexte à l'agression, à l'abus, à l'emprise. Hein. Là aussi, on a des choses à dire sur la surprise et l'emprise, qui pour le coup empêche, qui verrouille quelque chose. Mais quelle que soit l'issue de cet amour, si j'ose dire, ou de cette amitié, il y a un moment où il y a cette rencontre va renouveler votre regard sur vous, sur le monde. Et voilà, comme les grands succès, comme les grands échecs auxquels on ne s'attend pas, c'est une relance.
Oui, c'est une relance, et c'est ce que vous dites finalement, c'est que c'est à la fois, là aussi, une relance presque narrative, c'est-à-dire qu'on voit les choses autrement, oui. On les écrit autrement, on les raconte autrement, oui. Et en même temps, c'est là aussi un moment où le rapport à soi devient autre, c'est-à-dire qu'on est, il y a dans l'amour le sentiment de s'excéder soi-même,
oui.
Ou, comme le dit Kafka, de grandir de l'intérieur, donc on peut même juger que la frontière intérieure-extérieure devient compliquée, devient floue, et c'est l'articulation entre ces différentes choses-là qui en font une sorte de parangon de la surprise, c'est-à-dire que c'est là que se cristallise pour le coup.
Totalement.
Qualité de la surprise.
Totalement. Et d'ailleurs, par exemple, bon, moi, comme je disais, j'ai perdu la foi, mais j'ai été nourrie quand même aussi de textes bibliques ou un peu de la mystique juive aussi. Dans la Kabbale, par exemple, qui est vraiment la mystique juive, l'une des plus grandes expériences sacrée, c'est l'amour et l'union du corps de, alors dans la voilà, dans la Kabbale, c'est d'un homme et d'une femme, mais on peut élargir évidemment à toutes les possibilités amoureuses qui existent. Mais il y a vraiment des écrits très très forts là-dessus, sur la lumière et sur le fait que l'amour charnel et psychique rejoue quelque chose de la naissance du monde. Donc on est là dans des expériences très très profondes et qui sont pour moi, oui, à la fois au cœur de l'existence et de la surprise et de... juste quand vous parliez tout à l'heure de la raison, du fait qu'un désir de rationalité trop grande est suspect. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut s'ouvrir à tout vent. Enfin, je pense que vous l'avez très bien dit. Mais c'est peut-être c'est l'endroit où les poètes, les musiciens, les artistes expriment ce que tout un chacun peut vivre dans ces moments affectifs. Il y a du mystère. Et voilà, il y a du mystère, ne serait-ce que voilà, en nous et à l'intérieur de nous. Et ce mystère se révèle beaucoup pendant dans l'amour.
Et alors justement, dans pour conclure, il y a aussi dans le livre, vous l'évoquez, puis si on laissait au lecteur des figures négatives de la surprise, par excès, vous avez en passant évoqué la possibilité de se servir de la surprise justement pour contraindre et forcer les autres. Mais, puisque vous évoquez la question des poètes et des musiciens, il y a au cœur du livre, enfin, aux deux tiers du livre, une grande liste d'auteurs et de livres et de phrases qui vous importent et qui, pour vous... Alors, et qui, jusqu'à un certain point, et c'est pas du tout gênant, parce que c'est toujours fascinant quand les écrivains payent leurs dettes et donnent leurs affections, c'est pas forcément lié à la surprise directement, d'ailleurs, ce chapitre. Vous listez à la fois des phrases qui vous importent et des écrivains qui vous importent. Pourquoi ça vous a semblé important de mettre cette chose-là au cœur de votre livre ?
Alors, effectivement, il y a deux chapitres. Le premier s'appelle... c'est à la pointe de l'aiguille. Et je n'ai pas voulu chercher l'occurrence du mot surprise chez les écrivains que j'aime. Donc certains m'ont nourri, sont venus pour parler de la surprise, comme Duras par exemple, ou Kafka, ou Brigitte Giraud, dont je cite Vivre vite. Parce que la surprise, c'est aussi quelque chose qui nous donne envie de rétro-pédaler parfois, tant elle est mauvaise. Quand c'est l'accident, l'attentat, la mort accidentelle, on voudrait tout faire pour rétro-pédaler, et parfois juste de quelques secondes. Et donc empêcher une catastrophe qui aurait pu être évitée, qui n'a pas pu l'être. Et donc eux sont venus naturellement. Et dans ce chapitre-là, je n'ai pas cherché les écrivains qui m'avaient parlé de la surprise, mais j'ai assemblé toutes les premières phrases de certains livres qui m'ont accompagnée, qui m'accompagnent. Et j'aurais pu, là aussi, faire un livre entier, évidemment, à partir des premières phrases des livres qui ont compté pour moi. Mais c'est un chapitre qui s'intitule « À la pointe de l'aiguille », parce que j'ai eu envie, d'éprouver ma reconnaissance en tissant toutes ces premières phrases. Et ces premières phrases qui sont parfois très brèves, il y en a même, à un moment donné, il y a « voilà ». C'est fini. Et qui pourtant, parce que c'est la première phrase, à un moment donné, ont percé quelque chose en moi. Et tous ces livres ont, d'une manière ou d'une autre, apporté quelque chose de supplémentaire à mon rapport à la langue et à la façon dont je suis moi-même un texte qui se nourrit d'autres textes. Il ne parle pas de la surprise, mais il devient peut-être une surprise parce que ça crée un texte troublant, qui m'a moi-même troublée. La façon dont les phrases se sont agencées, ça raconte aussi quelque chose qu'aucun de ces auteurs n'a raconté tout seul, puisque c'est une première phrase et une autre première phrase et une autre première phrase. Et on trouve aussi bien Sally Rooney, Aaron Appelfeld, Charlotte Delbo, Laurent Mauvignier, Emmanuel Bernheim et Zerouya Chalev et tant d'autres, Marquez, enfin voilà, j'aurais envie de tous les citer. Et là, la surprise pour moi, ça a consisté à voir quel texte naissait de tous ces textes, de toutes ces phrases qui n'étaient pas faites pour aller ensemble. Et j'ai l'impression que, après, chacun est libre d'interpréter moi-même ce que ça produit comme texte. Voilà. Mais c'était peut-être pour provoquer cette surprise-là d'un texte à la fois bancal, parce que forcément, il y a des temps qui circulent de manière différente ou des personnages. Il y a du masculin, du féminin, du je, du tu. Comment cette chose un peu bancale raconte finalement quelque chose, malgré tout. Et c'est toute vie et tout désir d'aborder le monde est forcément un chaos dans lequel on cherche quand même une forme de sens.
En tout cas, merci beaucoup pour ce très beau tissage, ce très beau livre sur la surprise.
Merci.
Merci, Bérénice Nati.
Merci à vous, c'était un plaisir.